Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Lafayette, we are here. Lafayette, nous voilà. C'est par cette formule tonitruante que le colonel Stanton, aide-de-camp du général Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire américain, conclut le discours qu'il vient de prononcer sur la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus à Paris. Nous sommes le 4 juillet 1917 et les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés de la France depuis le mois d'avril. En envoyant ses fils sur les champs de bataille français, le peuple américain vient rappeler qu'il n'a pas oublié l'aide que lui apporta près d'un siècle et demi plus tôt le royaume de France dans sa guerre d'indépendance contre l'Empire britannique. À l'époque, le premier à franchir le pas et à traverser l'Atlantique fut Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Lafayette, le français préféré des Américains, Lafayette, que George Washington, le premier président des États-Unis, aima comme un fils. Mais quelle mouche a donc piqué le jeune Gilbert de Lafayette pour qu'il décide à 18 ans seulement de voler au secours des insurgés américains? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en deux parties. Première partie, un vent de liberté. À Metz, il n'est question que de cela dans les journaux, la venue du duc de Gloucester. Elle est annoncée pour le 8 août 1775. Que le frère du roi d'Angleterre, en personne, ait décidé de passer quelques jours en Lorraine avant de gagner l'Italie, but de son voyage, voilà qui crée l'événement. Il faut dire qu'à Metz, il ne se passe jamais grand-chose. Ce n'est qu'une ville de garnison sans grande importance. On y envoie les officiers supérieurs que l'on veut placardiser ou les jeunes recrues, encore mal dégrossis. Alors, qu'un hôte aussi important soit annoncé, et c'est la fine fleur de la ville qui se mobilise, à commencer par le maréchal de Breuil, gouverneur des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. C'est lui qui est chargé de recevoir le duc anglais. Pour ce glorieux vétéran de la guerre de 7 ans, guerre qui, entre 1756 et 1763, a opposé les grandes puissances européennes, à commencer par la France et l'Angleterre, voilà l'occasion de sortir un peu de l'ennui où il a sombré. Elle est loin, l'époque où il se battait pour les possessions françaises d'Amérique. Ici, il dépérit. Alors il se venge de ce passé révolu en faisant subir à ses garnisons un entraînement d'une rigueur outrancière. Aucune souplesse à attendre de lui. Recevoir le frère du roi George III nécessite un protocole. Il faut surtout montrer à ces Anglais que les Français restent dignes, malgré l'humiliation subie par le récent traité de Paris qui a privé la France de la quasi-totalité de ses possessions en Amérique. Pour ces quelques jours où le duc de Gloucester se trouve à Metz, avant de visiter Lunéville et Strasbourg, la municipalité va mettre les petits plats dans les grands. Il faut distraire son Altesse et bien sûr la régaler.
Nous possédons à Metz depuis plus de 8 jours Son Altesse Royale, Monsieur le Duc de Gloucester, qui voyage avec la princesse son épouse, leur enfant et de nombreuses suites. Leurs Altesses Royales ont honoré plusieurs fois le spectacle de leur présence et ont visité toute la ville. Monseigneur le Prince de Poix et plusieurs seigneurs qui sont à Metz ont l'honneur de leur donner à manger.
Leur donner à manger, mais aussi à boire, en présence des meilleurs éléments de la ville. Et comme le gouverneur est absent ces jours-là, c'est ce prince de Poix mentionné dans le journal qui s'occupe de recevoir le duc. Pour pouvoir faire bonne figure, il s'efforce de dénicher dans son entourage toute personne susceptible de briller un tant soit peu devant le prince. Parmi elles, un jeune capitaine qui lui est apparenté, puisqu'il a épousé la petite fille de son oncle, le maréchal Louis de Noailles. Ce jeune homme se nomme Gilbert de Lafayette. C'est un officier très prometteur. envoyé à Metz pour se perfectionner, il se languit de la capitale et brûle de trouver une occasion pour se faire remarquer. À 18 ans, il est né le 6 septembre 1757, il est animé de tous les idéaux propres à son âge, n'aime rien tant que d'échanger ce qu'on appelle alors les idées nouvelles, liberté, justice, égalité. Lafayette se rêve en champion de ces nobles principes. Comme beaucoup de jeunes nobliaux français de son âge, il a été nourri au lait de la Grèce et de la Rome antique. Dans son cœur, les idéaux républicains font bon ménage avec les rêves de conquête et de gloire. Rebelle, comme on peut l'être à 18 ans, il n'a pas manqué à l'école d'attirer l'attention de ses maîtres.
Arrivé au collège, je ne fus distrait de l'étude que par le désir d'étudier sans contrainte. Je ne méritais guère d'être châtié, mais, malgré ma tranquillité ordinaire, il eût été dangereux de le tenter. Et j'aime à penser que, faisant en rhétorique le portrait du cheval parfait, je sacrifiais un succès au plaisir de peindre celui qui, en apercevant la cravache, renversait son cavalier.
Voici donc le jeune officier, attablé en bonne compagnie en cette soirée du 8 août. Il est entouré de son parent, le prince de Poix, d'un certain nombre d'officiers de la garnison, du duc de Gloucester et de son épouse. On a souvent évoqué à tort la présence du gouverneur Louis de Breuil. Ce soir-là, il n'est pas dans la région et s'est fait représenter par le maréchal du camp, un certain Séguier. C'est lui qui s'est occupé de réunir les prestigieux invités dans le pavillon des officiers et non pas, comme on l'a souvent avancé, dans l'hôtel du gouvernement. Le vin coule à flot. On sert du champagne, bien sûr, mais aussi du vin d'Alsace. Et puis, afin de montrer qu'en matière de bon goût, la France a toujours une longueur d'avance, on verse au duc de Gloucester un vin parfumé à la rose. L'alcool délie les langues. On croyait recevoir un Anglais tout entier acquis à la cause de l'Angleterre, mais il n'en est rien. Le duc s'avère le plus féroce ennemi de la politique de son frère le roi George III, notamment sur le sujet des colonies d'Amérique. Gilbert de Lafayette tend l'oreille. Le duc, qui s'exprime dans un français impeccable, raconte les événements récents. Dans les possessions anglaises d'Amérique, on veut se débarrasser de la tutelle de l'Angleterre. Les rebelles, ceux qu'on appelle déjà les insurgents, les insurgés, veulent l'indépendance. Placé sous le commandement d'un certain George Washington, un général qui s'est déjà illustré dans la guerre de 7 ans, ils ont besoin d'une aide urgente pour continuer la lutte. Rébellion, liberté, indépendance. Ces mots frappent au cœur le petit capitaine Gilbert de Lafayette. Alors que son grade devrait l'engager à une certaine réserve, il se lève. Comme toujours, lorsqu'un convive s'exprime après s'être longtemps tu, on l'écoute avec une attention particulière. S'il faut des volontaires pour traverser l'Atlantique et se battre aux côtés des insurgés, il sera lui, Gilbert de Lafayette, le premier à partir.
Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimé. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang pour elle. Les jours où je pourrai la servir seront comptés par moi, dans tous les temps et dans tous les lieux, parmi les plus heureux de ma vie.
Quelle est la situation de cette Amérique que se disputaient encore 20 années auparavant Français et Anglais ? Les deux principales monarchies d'Europe sont arrivées sur le Nouveau Monde à la fin du XVIe siècle. Les premiers ont été les calvinistes français en 1562, qui ont investi la région appelée Caroline au XVIIIe siècle. Puis, les Anglais ont débarqué à leur tour en 1584 et se sont rendus rapidement maîtres d'une grande partie du territoire. Leurs possessions ont alors pour nom Virginie, Massachusetts, Nouvelle-Angleterre, New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvanie. Le grignotage des possessions françaises s'est poursuivi inexorablement. Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Baie d'Hudson sont enlevées à la France par le traité d'Utrecht. Deux siècles passent. L'Angleterre, forte de 13 colonies, est installée sur tout le littoral est de l'Amérique. Pourtant, le vent s'apprête à tourner.
En Angleterre, on s'est longtemps habitué à considérer les colonies d'Amérique comme une source de richesse intarissable. Cette avidité démesurée va précipiter les événements et amener la révolution de 1776.
À la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre a tout bonnement supprimé la liberté commerciale de ses colonies et établi un monopole radical à son unique profit. La guerre de 7 ans lui ayant causé des dépenses considérables, elle prend une décision qui va mettre le feu aux poudres en créant un papier timbré d'usage obligatoire, une taxe donc, et qui plus est, vendu à un prix exorbitant. C'est l'étincelle qui va déclencher l'incendie. Le 5 septembre 1774, c'est le soulèvement général. Le Congrès américain réuni à Philadelphie pose les premières bases de l'union des 13 États pour l'indépendance. La guerre est déclarée. On confie le commandement suprême des armées à un héros de la guerre de 7 ans, le général George Washington. Ironie du sort, celui qui s'était naguère illustré par sa cruauté contre l'ennemi français, se retournant contre l'Angleterre dont il était le champion, devient le plus fidèle ami de la France. Les premiers combats sont prometteurs, mais rapidement, l'armée loyaliste anglaise reprend du terrain. Les insurgés se trouvent dans une situation de plus en plus délicate. À l'heure où le duc de Gloucester dîne à Metz en présence de Lafayette, ces rebelles sont au bord de la catastrophe. Si une aide immédiate ne leur est pas apportée, c'en est fini de la Révolution américaine. Mais à Paris, que pense-t-on de la situation? Louis XVI, tout en souhaitant garder une attitude précautionneuse vis-à-vis de l'Angleterre, voit cependant d'un assez bon œil tout ce qui contribue à affaiblir la puissance économique de la perfide Albion. La perfide Albion, c'est ainsi qu'on surnomme alors l'Angleterre. Albion, du mot latin albus, blanc, désignant les blanches falaises de l'Angleterre. Avec son premier ministre, Vergennes, le roi de France suit les événements avec le plus grand intérêt. Dans les salons parisiens, à la cour, il n'est plus question que de cette guerre d'indépendance. Pourtant, on reste dans le domaine de la discussion. À aucun moment il n'est question d'intervenir dans le conflit. On fait même interdiction formelle à tout Français de rejoindre le camp des insurgés. Le cœur de Lafayette a pris feu pour la cause des rebelles américains. Il veut partir. Marié, il est depuis peu père d'une petite fille, mais sa vie de famille ne peut le détourner de son but. C'est d'abord dans les sociétés de pensée qu'il cherche à trouver des appuis. À la fin de l'année 1775, il est initié à la franc-maçonnerie au sein de la loge dite de la Candeur. Être devenu franc-maçon lui fournit l'occasion de rencontrer l'Américain Benjamin Franklin, qui l'est aussi, et qui à partir d'octobre 1776 va devenir l'ambassadeur officieux des États-Unis en France. Dès lors, Gilbert de Lafayette dispose d'un réseau de relations qui vont lui permettre de concrétiser son projet. Dans un premier temps, de se libérer de ses obligations militaires. Il demande un congé qui lui est accordé le 11 juin 1776 grâce à l'appui de sa belle famille. Les tracasseries financières lui sont épargnées. Les décès, presque coup sur coup, de ses parents et de ses grands-parents lui ont assuré une rente qui fait de lui l'un des jeunes nobles les plus riches du royaume. Libre de tout engagement vis-à-vis de sa hiérarchie, il peut, comble du luxe, s'occuper de financer lui-même son expédition. Ses nouvelles relations lui permettent de rencontrer un certain Silas Deane, agent des colonies unies en France. Ce marchand, qui a fait fortune dans le Connecticut, est l'invité incontournable des milieux financiers parisiens. Derrière le trafiquant se cache bien sûr un agent secret américain chargé de recruter des volontaires pour aller se battre aux côtés des insurgés. Il n'en manque pas à Paris. Beaucoup de vétérans de la guerre de 7 ans caressent l'idée d'en découdre avec ceux qui n'ont jamais cessé d'être leur ennemi, à titre officiel comme à titre personnel. Parmi eux, on trouve le comte de Ségur, un certain baron Calp, et quoiqu'il soit trop jeune pour avoir combattu l'anglais en Amérique, Gilbert de Lafayette. Calp va être pour le jeune homme d'un grand secours durant son voyage, parce qu'il parle parfaitement l'anglais. Silas Deane s'occupe de leur procurer des documents officiels. Voici Lafayette promu général, et oui, d'entrée de jeu. Benjamin Franklin, qui suit de près le déroulement des opérations, délivre à son protégé une lettre de recommandation signée de sa main à l'intention du président du Congrès américain. Lafayette trépigne. Il lui reste pourtant à acheter un bateau, des armes, à trouver un équipage, et puis à informer sa famille de son départ. Cette dernière formalité ne semble pas l'inquiéter outre mesure. Et c'est sur le ton le plus jovial qu'il écrit à son beau-père cette lettre qui restera comme un exemple d'insouciance romantique.
« Vous allez être étonné, mon cher papa, de ce que je vais vous mander. » Il m'en a plus coûté que je ne puis vous l'exprimer pour ne pas vous consulter. Mon respect, ma tendresse, ma confiance en vous doivent vous en assurer. Mais ma parole y était engagée et vous ne m'auriez pas estimé si j'y avais manqué. Au lieu que la démarche que je fais vous donnera, j'espère, bonne opinion au moins de ma bonne volonté. J'ai trouvé une occasion unique de me distinguer et d'apprendre mon métier. Je suis officier général dans l'armée des États-Unis d'Amérique. Mon zèle pour leur cause et ma franchise ont gagné leur confiance.
Or, au moment même où il écrit ce mot, Lafayette est sur le point d'être père pour la deuxième fois. Alors en lisant cette lettre, le duc d'Ayen, son beau-père, sort de ses gonds. Comment son gendre lui annonce purement et simplement qu'il quitte femme et enfant pour partir à l'aventure sans aucune certitude de jamais revenir? Cependant, l'heure du départ approche. Lafayette s'occupe des modalités concrètes de son voyage. Il lui faut acheter un bateau. Mais comment va-t-il échapper à la colère de sa belle famille? Par quelle ruse va-t-il pouvoir quitter la France? Et qu'est-ce qui l'attend en Amérique? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.